Je vous présente donc notre conférencière aujourd'hui. Il s'agit d'Anne Christophe, qui est née en 1967. Elle est ancienne élève de l'école polytechnique et docteur en psychologie cognitive de l'école des hautes études en sciences sociales. Elle est actuellement chargée de recherche au CNRS, au laboratoire de sciences cognitives et de psycholinguistique. Sa communication porte sur l'apprentissage du langage, les bases cérébrales du langage. Je lui donne tout de suite la parole. Merci.
Bonjour à tous. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de l'Université de tous les savoirs de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler de l'apprentissage du langage. Et avant de commencer avec l'apprentissage lui-même, je voudrais vous parler un tout petit peu de la structure du langage, pour qu'on voit c'est quoi la nature de ce qui doit être appris. Donc en fait, on dit que le langage est un système productif ou génératif. Et la raison pour laquelle on dit ça, c'est qu'à partir d'un nombre fini de mots, on peut construire un nombre infini de phrases. Donc comment ça marche, en fait? C'est pas très clair l'image, je ne sais pas si c'est possible de faire mieux. Donc, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que l'unité de sens dans la parole est le mot ou le morphème. Et donc, en fait, il se trouve que le sens d'un mot est arbitraire. Donc, par exemple, dans le mot chien, il n'y a rien dans le son chien qui indique que ça réfère à l'animal chien. Et si je commençais à utiliser des mots que vous ne connaissez pas, par exemple, vous ne pourriez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vous devriez forcément vous référer à un dictionnaire. Donc, pour illustrer ça, j'ai choisi un mot que moi-même, je ne connaissais pas, c'est coxigrue, j'ai choisi dans le dictionnaire. En fait, ça veut dire baliverne, absurdité. Et donc, à moins d'avoir une référence, on ne peut pas savoir le sens de ce mot. On estime le vocabulaire d'un adulte moyen à peu près 50 000 ou 100 000 mots. Donc, il y en a quand même un bon stock. Par contre, pour les phrases, on voit que c'est très différent. Vous n'avez pas besoin de connaître le sens de chaque phrase avant de l'avoir entendue. Et si je choisis ici, encore une fois, une phrase que vous n'avez sans doute jamais entendue, le livre racontait l'histoire d'un chat grincheux qui avait mordu un facteur, vous n'avez aucune difficulté à interpréter cette phrase, c'est-à-dire à calculer son sens à partir du sens des mots qui la constituent. Et on voit bien que c'est d'un véritable calcul qu'il s'agit, et pas simplement d'un espèce d'amalgame du sens des mots qui composent la phrase, parce qu'il suffit d'intervertir deux mots et le sens devient complètement différent. Par exemple, on pourrait parler d'un facteur grincheux qui a mordu un chat. Alors, avant de continuer, je vais essayer de vous parler un tout petit peu de qu'est-ce que c'est ces règles qui permettent de calculer le sens des mots. Je ne vais pas en parler beaucoup, ceux qui sont intéressés peuvent revenir demain et dans les jours qui viennent, mais il y a une petite partie qui est importante à expliquer pour comprendre le problème de l'apprentissage. Alors, en fait, il s'agit de règles complexes qui sont partagées par tous les locuteurs d'une langue. Alors, j'ai essayé de les illustrer avec des exemples très simples, mais l'exercice est assez difficile. Donc, vous voyez ici, je m'intéressais au pronom « il ». Dans une phrase assez simple, comme « Pierre a dit à Paul qu'il partirait demain », on voit que « il » est un pronom, c'est-à-dire qu'en fait, il est là à la place d'un nom. Il réfère à un nom pour éviter de répéter ce nom. Si on se demande qui peut être « il » dans cette phrase, donc « qui partirait demain », on voit qu'il peut s'agir par exemple de Pierre. Pierre a dit à Paul que Pierre lui-même partira demain. Il peut s'agir aussi de Paul. Pierre a dit à Paul que c'est Paul qui partira demain. Et il peut s'agir de quelqu'un d'autre qui n'a pas été encore qui a été mentionné plus tôt dans le discours et qui n'est pas là dans la phrase, par exemple Jacques. Maintenant, si on prend une autre phrase assez semblable, il a dit à Paul que Jacques partirait demain, on se demande encore une fois à qui réfère-il. On voit que cette fois-ci, il ne peut pas du tout être Paul. Si on dit il a dit à Paul que Jacques partirait demain, ça ne peut pas être Paul qui parle. Ça ne peut pas être Jacques non plus, en fait. Si on dit « il a dit à Paul que Jacques partirait demain », ça ne peut pas être Jacques qui est en train de parler. Par contre, ça peut toujours être quelqu'un d'autre. On ne voit pas tellement les couleurs, mais ici, il y a des flèches vertes qui indiquent que « il » peut être à la fois quelqu'un d'autre, Pierre ou Paul. Ici, on voit que « il » peut être quelqu'un d'autre, mais il y a des flèches rouges vers Paul et vers Jacques, qui indiquent que c'est impossible que ce soit des antécédents de « il », en fait. Alors maintenant, donc à partir de ces exemples, on pourrait tenter de tirer une généralisation simple, que pour savoir quel est le référent d'un pronom, quel est l'antécédent d'un pronom, eh bien on cherche quelque chose qui pourrait correspondre. Dans ce cas, on cherche quelqu'un de masculin singulier, puisqu'il est masculin singulier. Et on voit que si on prend quelqu'un avant, ça peut marcher. Si on prend quelqu'un après, ça a l'air de ne pas marcher. Donc ça pourrait être une règle assez simple. L'antécédent du pronom doit le précéder. Mais la phrase suivante va vous montrer que ce n'est pas si simple que ça. Donc si on dit « le candidat qui l'a vu hier n'a pas plu à Pierre », encore une fois, on se demande qui a vu quelqu'un. Et on voit que cette fois-ci, ça ne peut pas du tout être le candidat qui l'a vu. Le candidat qui l'a vu hier, on ne peut pas parler du candidat. Par contre, ça peut très bien être Pierre, qui pourtant est placé derrière. Hein, donc ça peut être Pierre qui a vu le candidat et le candidat ne lui a pas plu. Et alors, je vous ai mis en tout petit, mais je n'ai pas du tout l'intention de vous en parler, un des principes qui a été postulé par les linguistes pour expliquer justement la co-référence des pronoms. Donc, comment on fait pour calculer qui est le référent d'un pronom? Quelles sont les contraintes sur ces calculs? Et vous voyez que c'est assez compliqué, en fait. Hein, je n'ai pas l'intention d'entrer là-dedans aujourd'hui. Et ces règles, par exemple de la co-référence des pronoms, mais il y a beaucoup d'autres règles, sont aussi dans une certaine partie arbitraires. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un système de communication qui soit aussi efficace que le langage humain, qui soit lui aussi productif, avec lequel on puisse fabriquer une infinité de phrases, et qui ne repose pas sur des règles-là, mais qui utilise des autres manières de calculer la référence des pronoms. Donc toujours sur les mêmes règles, on peut montrer qu'elles sont apprises très très tôt par les enfants. Donc évidemment, si on veut tester les enfants et savoir comment ils interprètent les pronoms, il ne faut pas qu'on leur parle de Pierre, Paul et Jacques et on leur dise qui partira demain. Ça ne marche pas. Donc ce qu'on fait, c'est que déjà il faut les amuser, les intéresser. Là, je parle d'enfants qui ont à peu près entre 3 et 4 ans. Donc on peut leur jouer des petits spectacles de marionnettes avec Nounours, Nicolas et Pimprenelle, par exemple. Et ensuite, une fois qu'on leur a joué une petite scène, on leur présente des phrases simples comme « Il a mangé les crêpes quand Nounours était dans la cuisine » ou bien « Quand il a mangé les crêpes, Nounours était dans la cuisine ». Et vous voyez que pour les mêmes raisons que dans le transparent précédent, ici, « Il ne peut pas du tout être Nounours hein. ». Si on demande « Qui a mangé les crêpes ?», ça ne sera certainement pas Nounours, alors que dans celle d'en bas, ça peut très bien être Nounours qui a mangé les crêpes. Et la manière dont on demande aux enfants leurs intuitions, encore une fois, on ne leur demande pas volontiers comme ça « Est-ce que cette phrase est correcte étant donné ce contexte ?» Ça, c'est difficile, surtout si c'est l'expérimentateur qui a prononcé la phrase. Les enfants n'aiment pas trop corriger les adultes comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir une autre petite poupée, par exemple Oscar, qui est le neveu de Nounours, qui dit souvent des bêtises, les enfants le savent très bien. Et alors, on fait dire des phrases à Oscar et ils doivent dire « Est-ce qu'Oscar a dit des choses correctes ou pas des choses correctes ?» C'est comme ça qu'on arrive finalement à interroger les intuitions des enfants très jeunes, la manière dont ils interprètent les phrases. Et on voit que globalement, pour un cas comme ça, ils le font comme les adultes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, hein, pour résumer ce que je vous ai dit jusqu'à présent? C'est qu'on a en fait des règles ici, qui sont les règles qui permettent de calculer le sens d'une phrase à partir du sens des mots, qui sont des règles quand même assez complexes, hein, qui sont dans une certaine mesure arbitraires, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire un langage aussi efficace qui n'utilise pas les mêmes règles, et qui sont aussi apprises extrêmement tôt par les enfants. Et on ne voit pas bien sur la base de quelle évidence ils pourraient apprendre ça. Hein. C'est difficile, vous voyez bien que les parents ne sont pas là en train de dire dans la phrase « il a mangé les crêpes quand Nounours était dans la cuisine », ça peut très bien être Nounours qui a mangé les crêpes, mais pas dans l'autre, etc. Mais ce n'est pas le genre de conversation qu'on a. Et d'ailleurs, au passage, quand on vous a parlé de grammaire à l'école, par exemple, à l'école primaire, on ne vous a jamais parlé de l'interprétation des pronoms. On vous a plutôt enseigné des choses du genre quand le participe passé est conjugué avec avoir, il s'accorde avec le complément d'objet direct quand il est placé devant. On ne vous a jamais parlé de l'interprétation des pronoms. Et pourquoi? Simplement parce que c'est évident pour tout le monde. On n'en parle même pas parce que c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Et pour les enfants de même. Et donc ce que ça suggère, c'est que certaines propriétés du langage sont en fait innées, c'est-à-dire c'est des contraintes qui sont là, les bébés naissent avec, et la raison pour laquelle ils les apprennent si facilement, c'est que dans une certaine mesure, ils n'ont pas véritablement à les apprendre. Donc ça, c'est un argument qui est très célèbre, qu'on appelle l'argument de la pauvreté du stimulus, qui a été fait dans les années 50 par un linguiste qui s'appelle Noam Chomsky. Et avant de vous parler plus des conséquences de ça, je vais vous présenter tout un tas d'autres arguments qui pointent dans la même direction, en fait. Donc, il n'y a pas seulement cet argument purement formel, grammatical, qui indique qu'une partie de la grammaire est innée, mais aussi tout un tas d'autres faits qu'on peut observer dans la nature. Donc, le premier, c'est que le langage est spécifique à l'homme. Donc, d'une part, tous les êtres humains parlent. On n'a jamais trouvé une culture, une peuplade, qui n'ait pas de langage, aussi isolée soit-elle, donc encore dans les années 1930, on a trouvé en Nouvelle-Guinée des peuplades qui vivaient toujours à l'âge de pierre, pour ce qui était de l'aspect technologique. Ils avaient un langage qui avait la même complexité que n'importe quelle des 4000 langues humaines qu'on peut trouver dans le reste du monde. Il n'y a aussi, également aucune autre espèce animale qui possède un système de communication productif. Alors c'est très important, productif, parce qu'évidemment les animaux communiquent aussi entre eux d'une certaine mesure, de manière plus ou moins complexe selon les espèces. Mais rien qui ressemble au langage qui permet, encore une fois, de formuler un nombre infini de phrases à partir d'un nombre fini de mots. Donc si on prend l'exemple du langage des abeilles, qui est mal nommé parce que ça ne ressemble pas du tout au langage humain, bon, eh ben, c'est un système de communication très efficace qui permet de communiquer la distance et la direction des sources de nourriture. Et c'est tout. Ça n'a pas du tout la même ouverture que les langages humains. Et enfin, une dernière évidence, c'est qu'on a souvent fait des tentatives pour apprendre une langue humaine à d'autres espèces. Donc, en particulier, on a beaucoup essayé avec les chimpanzés. de différentes manières. Par exemple, il y a un couple de chercheurs qui s'est dit, bon, c'est quoi le meilleur moyen pour apprendre le langage, finalement? Comment font les enfants pour apprendre? Bon, ça vient tout seul. Il suffit de les élever, on leur parle, et puis ça leur vient. Un jour, ils commencent à parler. Et donc, ils ont eu un bébé, et ils ont décidé d'adopter un bébé chimpanzé en même temps, de manière à s'assurer que les deux bébés étaient bien soumis au même environnement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ans environ, il a fallu arrêter l'expérience parce que le bébé humain commençait à parler, effectivement. Et le bébé chimpanzé, lui, de son côté, ne parlait pas, mais par contre, il grimpait très bien aux arbres et ça commençait à devenir un petit peu dangereux pour son copain, qui était très copain. Et donc, il avait tendance à emmener le bébé humain en haut des arbres aussi. Et on a fait d'autres tentatives. Alors maintenant, donc, ça, c'était dans les années 70. Bon, après, les gens ont réfléchi un peu. Ils ont dit, bon, effectivement, les chimpanzés n'ont pas un système articulatoire comme le nôtre, ils ne peuvent pas articuler des sons. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas appris. Donc on s'est dit, bon, finalement, les chimpanzés ont des mains qui sont plus semblables aux nôtres, donc on pourrait essayer de leur apprendre la langue des signes qui est utilisée par les sourds-muets, et qui est une langue qui a exactement la même complexité que les langues parlées qu'on utilise. Il y a les mêmes contraintes, tout est semblable. Mais ça aussi, ça a échoué. Donc ce qu'on peut observer, c'est que les chimpanzés arrivent à apprendre un vocabulaire assez important, de l'ordre de plusieurs centaines de mots. Donc, ce n'est pas du tout un problème d'utilisation d'un symbole. Donc, ils arrivent à utiliser un symbole pour un concept. Par contre, l'aspect grammatical, c'est-à-dire la capacité à combiner des mots pour former des nouveaux sens, ça n'apparaît jamais. On peut observer aussi que le langage est décorrélé de l'intelligence. Alors, je vous ai mis des guillemets parce que ce n'est pas un concept qui est très bien défini, mais bon. Ce qu'on observe, c'est qu'on peut observer des gens qui fonctionnent normalement par ailleurs, mais qui ont un déficit spécifique pour le langage. Ils ont une difficulté pour parler, alors que par ailleurs, ils ont l'air d'avoir une intelligence normale. Donc, c'est ce qu'on appelle les enfants dysphasiques. Et dans une bien moindre mesure, les gens dyslexiques ont aussi un léger déficit pour le langage, en l'absence de toute autre sorte de déficit. On observe aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui ont un retard mental dans différentes capacités, mais qui malgré tout maîtrise le langage de façon quasiment normale. Et on a en particulier beaucoup étudié des enfants atteints d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Williams. Et donc, alors ça, qu'est-ce que ça nous apprend, en fait? C'est tout simplement, si on imaginait qu'il n'y avait rien de préprogrammé pour le langage, rien d'inné, à ce moment-là, comment on ferait pour apprendre les règles, comme je vous montrais tout à l'heure? Il faudrait raisonner. Donc, par exemple, on dirait, ah oui, comment on fait pour savoir à qui réfère « il », un pronom? On peut remarquer dans un premier temps, tirer une généralisation. En général, l'antécédent se trouve devant et pas derrière. Et de temps en temps, on trouve un contre-exemple, une phrase où l'antécédent peut se trouver derrière et pas devant. Donc il faut réfléchir, trouver qu'est-ce qui fait que cette phrase se comporte différemment des autres. Il doit bien y avoir une raison. Donc c'est le type de raisonnement que les linguistes eux-mêmes font pour formuler les principes qui expliquent ça. Mais si l'apprentissage du langage dépendait de ce genre de raisonnement, donc un raisonnement assez général qui permet de résoudre non seulement des problèmes de langage, mais des problèmes d'une autre sorte, eh bien, on devrait s'attendre à ce que les gens qui ont un bon système de raisonnement qui leur permet de bien apprendre le langage devraient aussi être capables de pouvoir apprendre des autres choses également bien. Et vice-versa, donc les gens qui ont un mauvais système de raisonnement qui leur permet mal d'apprendre tout un tas de choses devraient avoir des difficultés pour le langage. Donc on s'attendrait à une corrélation entre le langage et la capacité à apprendre d'autres choses. Et cette corrélation n'existe pas du tout. En outre, certains de ces déficits spécifiques pour le langage se transmettent de manière génétique, c'est-à-dire que si les parents ont un déficit, les enfants ont une chance supérieure d'avoir le même déficit. Et enfin, il existe une dernière source d'évidence, qui est des cas de population d'enfants qui réinventent un langage. Et alors, ces langages réinventés s'appellent les créoles, à cause du créole qui a été le premier qui a été décrit ainsi. Alors, dans quelles circonstances comme ça que des enfants peuvent réinventer un langage? En fait, c'est dans des conditions où il y a des adultes qui parlent différentes langues maternelles, qui ont du mal à communiquer entre eux, qui se trouvent être obligés de fonctionner comme une communauté et de communiquer entre eux. Et donc, en fait, dans ces cas-là, ils élaborent une espèce de langue appauvrie qui utilise des mots, finalement, de plusieurs langues, éventuellement, mais qui simplement les collent les uns à côté des autres, en utilisant seulement les mots de ce qu'on appelle de contenu, donc les noms, les verbes, les adjectifs, mais pas tous les petits mots grammaticaux comme les articles et les auxiliaires et les conjugaisons. Donc c'est une espèce de langue qui permet de communiquer, mais qui est bien plus pauvre qu'une langue naturelle. Et les Anglais appellent ça un pidgin. Et donc, quand on voit ensuite la génération suivante, donc des enfants qui sont exposés à ce pidgin, qui l'apprennent comme une langue maternelle, on s'aperçoit qu'ils vont enrichir finalement le pidgin, qui était lui-même très appauvri, et rajouter toutes ces choses qui manquaient, c'est-à-dire des conjugaisons, des articles, des auxiliaires, etc. Et donc ça a été étudié, en fait, ça s'est produit plusieurs fois dans l'histoire humaine. Donc une période qui a été assez bien étudiée, c'est le créole qui est apparu à Hawaï, qu'on appelle le créole hawaïen, dans les années 1900, donc ce qui a permis aux linguistes dans les années 70 de trouver encore des gens qui parlaient le pidgin, donc la chose d'origine, et leurs enfants qui parlaient le créole. Et il y a d'autres exemples encore plus récents qui ont à voir avec les langues des signes. Hein, donc la langue des signes, c'est la langue qui est utilisée par les sourds-muets. Il y en a plusieurs, en fait, dans le monde entier, il n'y en a pas qu'une seule. Les langues des signes ont finalement la même complexité grammaticale que les langues naturelles. Hein, donc il y a aussi des pronoms, par exemple, et ces pronoms vont obéir aux mêmes contraintes que les pronoms qu'on trouve dans les langues parlées. Alors, la première langue des signes est apparue en France. Comment elle est apparue, en fait? Parce qu'en 1780, l'abbé de Lépée a décidé de créer un institut pour les sourds-muets. Et donc, ce qu'il a fait, il a rassemblé des enfants, les a installés dans cet institut et a entrepris de leur enseigner des signes qu'il avait lui-même inventés, par exemple, ou des signes qui étaient assez évidents. Mais finalement, l'abbé de Lépée n'a pas pu construire une véritable langue. Il a construit une espèce de pidgin, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de signes qui avaient une signification, mais il n'y avait pas tout l'attirail grammatical qu'on trouve dans une langue naturelle. Et ce qui s'est passé, c'est que les enfants plus jeunes, qui sont arrivés plus tard, finalement, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, et qui ont finalement communiqué avec les élèves plus âgés, qui parlaient déjà cette espèce de pidgin, ont, eux, rajouté tout l'attirail grammatical des langues naturelles. Et cette langue, donc, qui est apparue pour la première fois en France, tout simplement parce que pour la première fois en France, il y a une communauté d'enfants sourds-muets qui étaient élevés ensemble. C'est très important que ce soit des enfants, avec des gens plus âgés, ça ne marche plus. Et donc cette langue a été exportée par la suite aux États-Unis parce qu'un Français qui parlait cette langue est parti là-bas et l'a enseignée à d'autres personnes. Donc, la langue des signes parlée en France et aux États-Unis finalement a la même origine, alors que la langue des signes parlée en Grande-Bretagne ne ressemble pas du tout. Elle a été réinventée par hasard. Et très récemment, au Nicaragua, on a eu un autre exemple de cette invention d'une langue des signes pour la même raison, c'est que l'État a décidé de créer un institut pour les enfants sourds-muets. Les premiers enfants communiquer entre eux dans la cour avec des signes qu'ils avaient rapportés de chez eux, qu'ils auraient inventés. Et les enfants qui sont arrivés par la suite ont élaboré à nouveau une langue qui contient toute la complexité des langues naturelles. Voilà. Alors, tous ces arguments, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent donc qu'il y a quelque chose d'inné dans le langage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une capacité génétiquement déterminée qui permet aux enfants d'apprendre une langue humaine. Mais alors la question maintenant, on peut se demander, c'est quoi exactement qui est inné? Qu'est-ce que ça veut dire que le langage est inné? Alors en fait, du fait de la structure des langues humaines, on a déjà une information très importante. Il n'y a pas moyen d'arrêter le sifflement. Ok. Donc une information très importante, c'est que les bébés, ils naissent pas préprogrammés pour apprendre une langue particulière. Hein, ils ont une prédisposition pour apprendre une langue humaine, mais ça peut être n'importe laquelle qui sera parlée dans leur environnement. Donc si un enfant est adopté à la naissance, il va apprendre la langue de ses parents adoptifs et pas la langue de ses parents biologiques, évidemment. Donc ça nous dit déjà une chose, si quelque chose est inné, c'est forcément quelque chose qui est partagé par l'ensemble de toutes les langues humaines. Hein, ça peut pas être quelque chose qui est spécifique à une langue. Donc ça fournit déjà une contrainte très importante sur ce qui peut être inné. Et toujours le même linguiste, Noam Chomsky, a appelé ça la grammaire universelle. Tout le reste, tout ce qui n'est pas partagé par l'ensemble des langues du monde, ça doit nécessairement être appris. Donc, en particulier les mots, hein, cette relation arbitraire entre un son et un sens, doit être appris par les bébés. Toutes les propriétés phonologiques, c'est-à-dire les propriétés sonores des langues, hein, qui varient d'une langue à l'autre, on entend bien quand on écoute des langues étrangères, doit être appris. Et aussi les propriétés syntaxiques qui diffèrent d'une langue à l'autre. Alors, dans la suite de cette conférence, je vais vous parler maintenant du problème de l'apprentissage. Et alors, plutôt que de vous faire un catalogue de faits, de dire les enfants à tel âge font ceci, ceci, cela, je vais plutôt essayer de vous présenter un certain nombre de questions de recherche qu'on peut se poser et la manière dont on peut y répondre, donc le genre de technique expérimentale qu'on peut utiliser pour répondre à ces questions. Donc forcément, j'ai fait un choix, hein, je ne peux pas vous raconter tout l'apprentissage du langage en 30 minutes. Donc le premier exemple que j'ai choisi, c'est comment les enfants font pour apprendre les phonèmes de sa langue. Il se trouve que historiquement, ça a été l'une des premières questions qui a été bien étudiée avec des enfants très jeunes. Alors c'est quoi les phonèmes de la langue? C'est les catégories sonores. Donc, par exemple, « peu » et « be » sont deux phonèmes du français. Et on dit que ce sont deux phonèmes du français parce qu'on peut trouver deux mots comme « pain » et « bain » qui ont un sens différent et qui ne diffèrent que par ces deux phonèmes. C'est ça la définition du phonème. Il se trouve qu'à travers les langues humaines, il existe un ensemble limité de phonèmes, donc seulement à peu près quelques centaines, hein, pas un nombre énorme, c'est pas un nombre infini en tout cas. Et chaque langue sélectionne un sous-ensemble de ces phonèmes. Chaque langue n'en utilise qu'une partie. Donc, par exemple, les Japonais ont du mal à entendre la différence entre re et le, les deux phonèmes re et le. Les Français ont du mal avec un certain nombre des voyelles de l'anglais, aussi avec les sons se et the, et ainsi de suite. Donc, les adultes ont du mal à percevoir des sons qui ne sont pas utilisés par leur langue. Voilà. Donc, on peut se demander maintenant comment font les bébés pour apprendre ça. En gros, il y a deux hypothèses que je vous ai mises ici. La première, c'est que les bébés, au départ, ne perçoivent rien et ils apprennent à percevoir les phonèmes de leur langue parce qu'ils les entendent dans leur environnement. La deuxième hypothèse, c'est l'inverse. Ça serait de dire qu'à la naissance, les bébés perçoivent tous les phonèmes possibles qui pourraient exister dans n'importe quelle langue du monde et que petit à petit, au contact de leur langue maternelle, ils oublient tous ceux qui ne servent pas. Donc, c'est deux hypothèses totalement séparées, vous voyez bien. Et en fait, on peut les étudier de manière expérimentale. Donc la toute première étude de ce genre, en fait, c'était vraiment assez historique, a été réalisée par Peter Heimas et ses collègues au début des années 70. Et il a montré que des bébés de quelques mois, donc il a utilisé des bébés de 1 mois et de 4 mois, qui perçoivent déjà la différence entre les syllabes pas et bas, donc les phonèmes peu et beu. Alors la manière dont il a fait ça, c'est qu'il a utilisé une technique qu'on appelle la technique de succion non nutritive, qui repose sur un principe assez simple, c'est qu'on suppose que les bébés aiment la nouveauté. Donc, comment ça marche? On installe le bébé dans un petit siège, on lui propose une tétine fermée, et chaque fois que le bébé tète sur la tétine, on lui fait entendre une syllabe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques minutes, les bébés se rendent compte que c'est eux qui déclenchent les syllabes, ça les intéresse, et donc ils se mettent à téter un petit peu plus, jusqu'au moment où ils en ont assez d'entendre toujours la même syllabe, par exemple toujours bas, et à ce moment-là, leur succion baisse. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique, si on regarde la partie de gauche. En abscisse, vous avez les minutes de l'expérience. Et en ordonnée, vous avez le nombre de succions moyens dans chaque minute. Donc vous voyez ici, avant qu'on commence l'expérience, les bébés têtent assez peu. Quand on leur présente des syllabes, leur succion augmente et on attend qu'elle baisse pour chaque enfant. À ce moment-là, qui est indiqué par la ligne verticale ici, on va changer la syllabe. On va passer par exemple de bas à pas. Et ce qu'on regarde, c'est est-ce que les bébés entendent ce changement de syllabe? Et s'ils l'entendent, s'ils le perçoivent, on s'attend à ce qu'ils augmentent leur succion en fait. Puisque s'ils ont compris que c'était eux qui déclenchaient les syllabes avec leur succion, et qu'ils entendent une différence, c'est que cette différence les intéresse parce que c'est nouveau, on s'attendrait à ce qu'ils augmentent à nouveau leur taux de succion. Et vous voyez, c'est ce qui se passe ici. De là à là, les bébés ont augmenté. Donc ça, on pourrait être tenté de l'interpréter pour dire oui, les bébés entendent la différence entre pas et bas. Mais en soi, ça ne suffit pas. On veut toujours un contrôle. Alors pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, par exemple, les bébés ont baissé leur succion, ils remontent par la suite. Ça pourrait se faire que la succion des bébés est cyclique et qu'après avoir baissé, ils remontent spontanément. Donc on veut toujours savoir, mais qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait rien changé? Donc ça, c'est le but du groupe contrôle que vous voyez ici complètement à droite. Les bébés sont accueillis exactement de la même manière que les autres, ils entendent des syllabes basses seulement quand ils tètent, mais au moment où ils ont baissé leur succion, eh bien, au même moment qu'avant de cette ligne verticale, on continue simplement avec la même syllabe, on continue à leur faire entendre « ba, ba, ba ». Et ce que vous voyez, c'est que dans ce cas-là, les bébés en fait, continuent à baisser leur succion. Ils ne remontent pas du tout comme là-haut. Et donc, ce qu'on peut interpréter, c'est la différence significative entre les bébés qui ont changé de syllabe par rapport à ceux qui n'ont pas changé de syllabe, qui nous dit qu'effectivement, les bébés d'un mois perçoivent déjà la différence entre bas et pas. Le graphique du milieu est encore un peu plus compliqué. C'était pour vérifier si les bébés perçoivent ces syllabes de la même manière que les adultes, puisque bas et pas, évidemment, sont deux sons qui sont physiquement différents, acoustiquement différents. Ici, les auteurs ont testé deux sons bas qui sont aussi physiquement différents, mais perçus comme des adultes, comme bas. Et la différence physique est la même ici que là, et on voit que dans cette condition, les bébés ne réagissent pas. Donc, ils perçoivent les syllabes de la même manière que les adultes. Ok. Allez-y. Okay. Vous m'entendez là? Non? C'est bon? Vous m'entendez? C'est pas branché? c'est que les bébés de quelques mois perçoivent déjà la différence entre pas et bas. Maintenant, il y a du brouillage. Voilà, on continue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Bon, ça pourrait vouloir dire qu'effectivement, ils perçoivent cette différence dès la naissance, mais après tout, ils auraient très bien pu l'apprendre aussi en l'espace d'un mois. En un mois, ils ont déjà entendu beaucoup de paroles. Hein, donc, cette expérience est très intéressante, mais ne nous permet toujours pas de répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire comment font les bébés pour apprendre les phonèmes ? Est-ce qu'ils apprennent ceux de leur langue ou est-ce qu'ils oublient ceux des autres langues ? Alors, ce qu'on voit ici, c'est une expérience faite par Janet Worker et ses collègues quelques années plus tard. Et donc, ce qu'elle a fait, elle, c'est de faire le même genre d'expérience avec des bébés un peu plus âgés ici, mais qui écoutaient des sons qui n'appartenaient pas à leur langue maternelle, hein, donc des sons d'une langue étrangère. Les sons qu'elle a utilisés, ce sont ici des sons du hindi, entre un ta rétroflexe et un ta normal, dental. Et moi, je ne peux pas vous faire des exemples parce que c'est des sons qui n'existent pas non plus en français. Donc, je ne peux pas ni les articuler ni les percevoir moi-même. Hein. Elle a utilisé aussi des sons ici d'une langue qui s'appelle le Salish, qui est une langue indienne d'Amérique du Nord, entre deux sortes de sons qui. Hein, encore une fois, je ne peux pas vous les faire parce que ça n'existe pas non plus en français. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'elle a étudié les mêmes bébés à différents âges de la vie. Hein, donc, elle les a testés une première fois entre 6 et 8 mois, une deuxième fois entre 8 et 10 mois, et une troisième fois entre 10 et 12 mois. Et ce que vous voyez ici, en ordonnée, c'est le pourcentage de bébés qui entendent la différence entre les syllabes. Cette fois-ci, on les teste avec une technique un petit peu différente. Et donc, vous voyez qu'à 6 et 8 mois, 100% des bébés perçoivent les deux sortes de contrastes, à la fois celui qui vient du hindi et celui qui vient du salish. À 10-12 mois, la performance baisse un petit peu, surtout pour le... 8-10 mois, pardon, surtout pour le salish. Mais de toute façon, entre 10 et 12 mois, donc vers la fin de la première année de vie, vous voyez que maintenant, 0% des bébés perçoivent cette différence. Donc, entre l'âge de 6 mois et l'âge de 12 mois, finalement, on voit que les bébés sont passés d'un stade où ils pouvaient percevoir l'ensemble des phonèmes de toutes les langues du monde, probablement, hein, disons, elle a testé deux cas, et vers la fin de la première année de vie, ils sont devenus comme des adultes de leur entourage, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus percevoir les phonèmes qui n'existent pas dans leur langue. Hein, donc, cette fois-ci, cette expérience répond bien à la question que je vous ai posée au départ. Comment font les bébés pour apprendre les phonèmes de leur langue ? On voit qu'en fait, à la naissance, ils naissent avec la capacité de percevoir l'ensemble des phonèmes qui sont utilisés dans n'importe quelle langue, et qu'au fur et à mesure qu'ils entendent leur langue maternelle, vers la fin de la première année de vie, ils ne perçoivent plus que les phonèmes qui sont utilisés dans leur langue, ceux qui leur seront utiles. Alors là, en fait, on a un exemple d'apprentissage par sélection, comme on dit, c'est-à-dire que les bébés disposent au départ de l'ensemble des possibilités et qu'ils sélectionnent celles qui vont servir dans leur langue. Alors maintenant, quel genre de conséquences ça peut avoir, ça ? Un an, c'est très très jeune, hein ? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'apprendre une deuxième langue après un an, on peut se dire ? Bien, il y a un phénomène qui est très connu, vous ne serez pas surpris ici, hein, c'est qu'en général, quand on apprend une deuxième langue, on finit avec un accent étranger. Et donc, bon, on sait tous ça, on sait tous qu'il y a un accent étranger, mais on a quand même aussi toujours... Plus fort, pardon. On a quand même toujours aussi ce sentiment que plus on apprend jeune, et mieux c'est. Et effectivement, c'est ce que cette courbe montre. Hein. Donc ici, James Flegue et ses collègues ont étudié 250 bilingues, hein, donc une population très importante, qui sont tous des gens qui sont nés de parents coréens en Corée et qui sont ensuite arrivés aux États-Unis à différents âges de la vie. Donc c'est ça la variable qui est représentée ici. Certains sont arrivés à 3 ans, d'autres à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, etc. Chaque point représente la performance d'une personne. Et ici, en ordonnée, on a un indice qui nous indique si ces gens sont perçus comme ayant un accent étranger ou pas. Et ça a été fait de manière assez contrôlée. Donc on leur a simplement demandé de répéter une phrase prononcée en anglais, de la répéter du mieux qu'ils pouvaient. Hein, donc on ne teste pas en même temps leur grammaire, par exemple, ou d'autres aspects. Et on voit qu'effectivement, plus ils sont arrivés jeunes, et meilleur est leur accent par rapport à ceux qui sont arrivés plus tardivement. Hein, donc après 15-20 ans, on voit que c'est foutu. Quoi. On finit avec un très mauvais accent. Mais finalement, même ceux qui arrivent relativement jeunes, on voit qu'ils ne sont pas tout à fait comme ici les gens qui sont nés aux États-Unis. Donc malgré tout, même ceux qui arrivent très jeunes, semble-t-il, il leur reste quelque chose. Et ça peut être compatible avec les données que je viens de vous montrer et que l'apprentissage se fait finalement dans la première année de vie. Peut-être 3 ans, c'est déjà trop tard finalement, pour faire cet apprentissage des sons de la langue. Alors, l'expérience suivante que je vais vous montrer... Et une tentative justement d'essayer de tester ça de manière plus focalisée. Hein. Donc, quand on a un accent étranger, on peut se demander pourquoi. Il y a deux interprétations possibles. Une, ça serait de dire qu'on a du mal à articuler les sons qu'on n'a pas l'habitude d'articuler. Hein, ça, c'est l'interprétation à laquelle on pense le plus souvent. Mais il y a une autre interprétation, c'est possible qu'effectivement, si on ne perçoit pas les sons d'une langue étrangère, ben, c'est très difficile d'apprendre à les articuler puisqu'on n'entend pas ce qu'on fait. Hein, donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, je ne peux pas vous produire les contrastes du hindi entre le ta et le ta rétroflex. Bon, je pourrais essayer parce que j'ai appris comment le faire, comment positionner la langue pour le faire, mais en fait, je n'entends pas ce que je fais, donc je n'ai aucun moyen de tester si j'ai produit quelque chose de correct ou pas. Et ça se pourrait que ça soit finalement la cause principale de l'accent étranger, comme on l'observe. Et donc ici, Christophe Pallier et ses collègues ont testé des bilingues entre l'espagnol et le catalan, justement pour leur perception des phonèmes cette fois, et pas leur production. Alors ce que vous voyez ici, c'est deux groupes de gens, certains qu'on appelle espagnols et d'autres catalans, mais en fait tous sont bilingues entre l'espagnol et le catalan. Ils sont étudiants à l'université de Barcelone et ils suivent des cours dans les deux langues, ils écrivent les deux langues couramment, donc ils sont très efficaces dans les deux langues. Simplement, ceux qu'on appelle catalans sont nés de parents catalans et jusqu'à l'âge de 3 ans, ils ont entendu principalement du catalan, un petit peu d'espagnol aussi, parce que c'est une ville bilingue, mais plus de catalan. Et ceux qu'on appelle espagnols sont nés de parents espagnols et ont entendu plus d'espagnol jusqu'à ce qu'ils entrent à l'école. Ici, on a testé leur perception des voyelles « e » et « e ». Alors, pourquoi « e » et « e » ? Parce que, comme en français, en catalan, il y a deux voyelles, une pour « e » et une pour « e ». En espagnol, par contre, il n'y a qu'une voyelle dans cette région de l'espace des voyelles, et c'est une voyelle qui ressemble plus à la voyelle « e ». Et alors, ici, les voyelles qui sont le plus à gauche sonnent comme « e », celles qui sont le plus à droite comme « e », et celles qui sont au milieu, en fait, sont ambiguës. On a fait un continuum entre ces voyelles et ces voyelles, à l'aide d'un synthétiseur de parole. Donc, si vous regardez le comportement des sujets catalans, c'est cette courbe-là, vous voyez que les voyelles qui sont les plus à gauche, ils les entendent principalement comme « e », celles qui sont les plus à droite, ils les entendent comme « e », et celles qui sont vraiment au milieu, ma foi, ils ne savent pas très bien, donc ils répondent de 50%, de temps en temps une, de temps en temps l'autre. Et elle est véritablement ambiguë entre les deux. Maintenant, si on regarde les Espagnols, on voit qu'en fait, eux, sur tout l'ensemble du continuum, ils ne savent pas bien laquelle c'est, donc ils répondent toujours plus ou moins au hasard. Donc, pour eux, ça reste très difficile. Et pourquoi c'est surprenant, ça ? C'est quand même des gens qui parlent très très bien le catalan, qui ont un vocabulaire parfait en catalan, et qui ont entendu du catalan pendant au moins 15 ans de leur vie, donc entre l'âge de 3 ans et l'âge de 20 ans au moment où on les teste. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il semblerait que même avec un apprentissage intensif, finalement, on ait du mal à revenir en arrière par rapport à l'apprentissage qui a été fait lors de la petite enfance. Alors, on ne sait toujours pas bien pourquoi. Ça paraît un peu paradoxal, ça. Pourquoi est-ce que les bébés apprennent si facilement en l'espace d'un an et qu'après, plus tard, mais pas si vieux que ça, à partir de 3 ans, on a tellement de mal à réapprendre autre chose. Et là, bon, je vais juste en profiter pour vous indiquer, pour vous montrer un peu comment peut se faire la recherche. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui là-dessus, mais on peut faire des hypothèses. Pourquoi c'est si difficile d'apprendre une deuxième fois ? Bon, une première hypothèse qui a été évoquée souvent, c'est la notion de période critique. Donc ça, c'est une notion qui est très utilisée en biologie pour expliquer certains développements. Donc, par exemple, si on prend le développement du système visuel chez un certain nombre de mammifères, comme les êtres humains, mais aussi les chats, les chimpanzés, etc., on voit que finalement, le cerveau intègre l'information qui provient des deux yeux pour calculer la profondeur, par exemple. Et alors, si on prend un petit chat et qu'on l'empêche de voir pendant les premières semaines qui suivent la naissance, en fait, ce petit chat n'arrivera jamais à intégrer l'information des deux yeux. Donc, cette organisation du cerveau s'effectue après la naissance et grâce à l'information qui provient du monde extérieur. S'il n'y a pas d'information pendant une certaine période, le cerveau ne peut pas s'organiser. Donc là, de la même manière, on pourrait dire finalement, l'apprentissage des phonèmes peut se faire, mais il doit se faire avant un certain âge, après ça devient trop tard. Alors d'après la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure sur le phénomène de l'accent étranger, on voit que ce n'était pas quelque chose en escalier. Donc ce n'était pas que jusqu'à 6 ans c'était parfait, après 6 ans ça ne marchait plus du tout. On voyait une espèce de décroissance progressive. Donc s'il y a une notion d'âge, on voit bien qu'elle sera quand même assez complexe à expliquer. La deuxième hypothèse possible, ça serait dire qu'il existe une procédure d'apprentissage pour les phonèmes et qu'elle ne peut marcher qu'une seule fois. Elle ne peut pas marcher deux fois dans la vie. Et la troisième hypothèse, c'est de dire que tout simplement, il peut y avoir une interférence entre les langues. C'est-à-dire que les gens qui sont bilingues, étant qu'ils ont appris l'espagnol en premier, ensuite ils doivent apprendre le catalan, mais malgré tout, ils continuent à utiliser l'espagnol tous les jours. Et donc en espagnol, il n'y a qu'une voyelle « e » et chaque fois qu'ils entendent un truc qui ressemble à « e », il l'attribue à la voyelle « e ». Et donc peut-être, puisque cette représentation est toujours utilisée quotidiennement, c'est très difficile de la modifier. Ça serait un problème d'interférence. Comment on peut faire pour répondre à ces différentes... pour essayer de trancher entre ces différentes hypothèses, qui ne sont d'ailleurs pas incompatibles entre elles. Il se peut qu'il y ait plusieurs causes qui participent. Bon, par exemple, on pourrait espérer isoler la première des deux suivantes en étudiant des bilingues qui ont appris les deux langues en même temps. Donc maintenant, si on prend des bébés, toujours à Barcelone par exemple, dont l'un des parents est catalan et l'autre espagnol, à ce moment-là, les deux langues sont apprises en même temps et en particulier très jeunes. Donc on pourrait voir, est-ce que les deux langues dans ces cas-là sont apprises parfaitement ou bien est-ce que l'une devient dominante ? Si les deux langues sont apprises parfaitement, ça nous dit que les problèmes qu'ont les autres personnes à apprendre une seconde langue provient probablement du fait qu'ils apprennent trop tard. Puisque pour ces bilingues-là, il y a les mêmes problèmes d'interférence et il y a le même problème qu'il faut apprendre deux fois. Et ces études sont en train d'être faites, justement, à l'Université de Barcelone, mais on n'a pas encore la réponse. Maintenant, on peut aussi espérer séparer entre la troisième hypothèse et les deux autres, donc la question d'interférence entre les deux langues, en étudiant des gens qui ont oublié leur langue maternelle. Donc ça peut être le cas d'enfants adoptés qui ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, puis qui ont été adoptés en France, qui se sont mis à apprendre le français à ce moment-là, et qui ont oublié leur langue maternelle parce qu'ils n'étaient plus en contact. Donc quand on les interroge aujourd'hui, ils nous disent « non, je ne peux pas la parler, je ne peux pas la comprendre ». Et donc on peut penser qu'à ce moment-là, l'interférence devrait avoir disparu. Donc si ces gens maîtrisent parfaitement le français et n'ont aucun souvenir de leur langue maternelle, on pensera que les difficultés éprouvées par les bilingues qui parlent les deux langues en même temps sont dues à l'interférence. Au contraire, si ces gens-là, par exemple, n'ont pas maîtrisé le français tout à fait parfaitement, on pensera qu'une des autres causes doit jouer aussi dans les difficultés des bilingues. Voilà. Donc ça, c'était un exemple d'un problème de recherche et comment on peut l'aborder. Je vais vous parler maintenant d'un autre sujet, qui est le problème de comment font les bébés pour apprendre les mots de leur langue. Je vous ai dit, si on se concentre sur ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qui varie d'une langue à l'autre ? Une des choses les plus évidentes, c'est effectivement les mots. Donc là, on est bien forcé d'apprendre tout le dictionnaire par cœur. Et donc, apprendre un mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire identifier une forme sonore, par exemple chien, savoir que c'est un mot du français, et ensuite trouver à quoi cette forme sonore réfère. Donc trouver que ce mot chien réfère aux animaux chien. Donc dans un premier temps, il faut identifier la forme sonore des mots, ce qui implique le découpage des phrases en mots, qui n'est pas si simple, on va en parler. Et dans un deuxième temps, il faut deviner le sens des mots, donc savoir à quel objet chaque mot réfère. Donc pour ce qui est de l'identification de la forme sonore des mots, on a un problème ici, en fait, parce que dans la parole, il n'y a pas de pause qui sépare les mots les uns des autres. On fait des pauses assez rarement, en fait, principalement pour reprendre sa respiration. Et donc, si on écrit un texte sans les espaces, qui pourrait être l'équivalent de pause entre les mots, on voit que c'est assez difficile à comprendre, en fait. C'est assez difficile de trouver les mots. Malgré tout, on y arrive quand même, il suffit d'un tout petit peu de concentration. Et la manière dont on fait, c'est que simplement, à chaque instant, on essaye de chercher quels sont les mots qui pourraient bien se trouver là. Et pendant longtemps, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était cette stratégie dont on pensait que les adultes utilisaient. On pensait que les adultes utilisaient principalement cette stratégie de reconnaître les mots qu'ils connaissent déjà. Alors évidemment, ça pose un problème. C'est que si maintenant je vous présente une phrase en japonais, bon, à moins que par chance vous ayez un dictionnaire mental du japonais, eh bien, c'est complètement impossible de faire ce travail. Et on pense bien que les bébés à la naissance sont comme nous quand on écoute du japonais, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les mots au départ, il faut bien qu'ils les apprennent. Donc comment font-ils ? Au cours des 10 dernières années, il y a eu beaucoup de recherches sur ce sujet. On a trouvé un certain nombre de stratégies que les bébés pourraient exploiter. Je vais vous en présenter juste une, la plus simple à expliquer probablement. Qui revient à dire qu'en fait, bon, effectivement, il n'y a pas de pause entre les mots. Mais malgré tout, ce que je vous ai mis là-haut, c'est quand même un petit peu exagéré. Ça serait le cas si on parlait avec chaque syllabe qui est exactement comme un robot, disons, comme le découpage de la parole en mots. Mais en fait, on ne parle pas comme ça. Quand on parle, il y a une intonation dans la parole, il y a des syllabes qui sont plus hautes que d'autres, il y en a qui sont rallongées. Et finalement, ce que ça donne, tout ça, c'est qu'à l'aide de l'intonation, de la mélodie, de la parole et de son rythme, on peut effectuer un premier découpage un peu grossier. Donc si je vous dis cette phrase, ça serait le découpage de la parole en mots pourrait s'effectuer grâce à l'identification des mots. Et en fait, chaque petite unité que je vous ai indiquée comme ça a son propre contour mélodique. À la fin, il y a un petit ralentissement qui n'est pas du tout une pause, on ne trouve pas un silence dans le signal de parole, mais malgré tout, on peut espérer quand même identifier des unités comme ça. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le problème est déjà largement simplifié. C'est vrai qu'il reste du travail, il faut trouver que le et découpage sont deux mots différents, mais ce travail est largement simplifié. Donc comment on pourrait tester cette hypothèse ? En fait, une stratégie de recherche qui se révèle très efficace, c'est que chaque fois qu'on se dit « Tiens, cette source d'information, cette stratégie, ça pourrait être très efficace pour les bébés », mais on peut déjà voir est-ce que les adultes l'utilisent. Parce qu'après tout, si c'est vrai ce que je vous dis, qu'il y a des unités mélodiques dans la parole et que ces unités permettent de découper les phrases en mots, bon, ben, il n'y a pas de raison que les adultes ne les utilisent pas. Donc ici, vous voyez une expérience avec des adultes qui essayent de tester l'influence de ces frontières que j'ai appelées ici prosodiques, c'est le terme technique, mais c'est les frontières d'intonation. Alors comment on fait maintenant pour tester ce que les adultes entendent? C'est un petit peu difficile parce que les adultes, évidemment, ils ont toujours la ressource d'utiliser les mots de leur langue. Eux, ils ont le dictionnaire. Donc ce qu'on veut, c'est désactiver le dictionnaire localement. Comment on peut faire ça? En fait, on retrouve le chat grincheux tout à l'heure, c'est pas par hasard. Alors pourquoi il nous intéresse ce chat grincheux? Parce que si vous regardez bien, vous voyez que le mot chagrin pourrait être inclus dans cette phrase. Et donc, si c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'indice qui nous permet de décider si c'est chat ou si c'est chagrin, quand on entend ces deux syllabes à la suite, ben on s'attendrait à ce que les adultes soient un petit peu ralentis pendant ce moment-là. Ils ont comme un choix. Donc pendant ces deux syllabes, ça dure 500 millisecondes, une demi-seconde, c'est très court. Ils pourraient se demander localement, ah tiens, est-ce que c'est chat ou est-ce que c'est grincheux? Comment on fait pour tester qu'est-ce qu'ils entendent et surtout qu'est-ce qu'ils entendent pendant ces 500 millisecondes? Parce que si on attend la syllabe cheux, évidemment, tout le monde peut décider que c'était grincheux et pas chagrin qu'on a entendu, parce que cheux n'est pas un mot du français. Donc comment on fait pour tester ça? On peut leur demander, par exemple, de faire une tâche de détection de mots. Donc à ce moment-là, le mot qu'ils doivent détecter, c'est le mot chat, par exemple. On les place devant un ordinateur qui va mesurer leur temps de réaction. Et on leur dit, dès que vous entendez chat, le plus vite possible, vous appuyez sur un bouton. Et on mesure leur temps de réaction. Et donc, ce qu'on s'attend, c'est que quand il y a une ambiguïté locale, c'est-à-dire que peut-être il y a un autre mot qui se trouve là, il devrait être légèrement ralenti pour trouver le mot chat. Le contrôle ici, il est juste en dessous. Donc c'est par exemple son chat drogué. Pourquoi c'est un contrôle? Parce qu'il n'y a aucun mot en français qui commence par la suite de son chad. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Les gens peuvent savoir tout de suite que c'était chat et pas chat quelque chose. Il y a évidemment des pièges pour éviter que les gens qui participent à ces expériences ne répondent toujours dès qu'ils entendent chat. Donc, par exemple, de temps en temps, on leur parle d'un échafaudage branlant et il ne faut pas répondre. Okay. Alors ça, c'est une condition. La deuxième condition, qu'on va comparer à cette première, c'est un cas où on a une frontière mélodique entre chat et la syllabe qui suit. Donc, c'est les mêmes syllabes, toujours chagrin, avec peut-être chagrin qui est compris dedans. Mais cette fois-ci, on a une de ces frontières mélodiques. On dit un énorme chat grimpé aux arbres. Il n'y a pas de pause, mais il y a comme une petite variation dans la mélodie. Le cas non ambigu, c'est toujours pareil. On choisit un verbe qui commence, par exemple, par la lettre D, tel qu'il n'y ait aucun mot qui commence par chad. Les résultats de cette expérience, vous les voyez ici. Tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand il y a une frontière, comme ici, les gens vont beaucoup plus vite pour détecter le mot chat que quand il n'y a pas de frontière. Donc ça, déjà, ça nous dit quelque chose. Finalement, c'est comme si la frontière donnait la fin du mot et que c'était très difficile, très facile, du coup, d'accéder à ce mot, d'identifier le mot chat. L'autre résultat, c'est qu'on peut comparer la réponse aux cas qui sont ambigus, qui contiennent chagrin, et ceux qui ne sont pas ambigus, donc en vert et en bleu, si vous voyez quelque chose. Donc, vous voyez qu'ici, quand il n'y a pas de frontière, les gens répondent un petit peu plus lentement dans le cas ambigu que dans le cas non ambigu. Au contraire, quand il y a la frontière, les deux temps de réaction sont tout à fait semblables. Donc ça nous indique qu'effectivement, ces frontières mélodiques pourraient être utilisées par les adultes pour trouver les frontières des mots dans les phrases. Alors évidemment, maintenant, on voudrait bien retourner vers les bébés. Alors comment faire pour poser la même question aux bébés? En fait, il existe des techniques expérimentales pour le faire. Ça, c'est une expérience qui est en train d'être faite en ce moment. Et donc, comment on peut le faire? On peut leur apprendre, par exemple, des bébés déjà autour de 1 an, quand on pense qu'ils commencent à travailler déjà sur les mots, entre 10 et 14 mois, mettons. On leur apprend que s'ils tournent la tête chaque fois qu'ils entendent chagrin, ils vont être récompensés, entre guillemets, par un petit nounours qui s'allume quelque chose d'intéressant. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils entendent un mot de fond, par exemple ballon, ballon, ballon. De temps en temps, ça passe à chagrin. Si à ce moment-là, le bébé regarde dans une direction particulière, il va voir s'allumer un petit nounours. Une fois qu'il a bien appris ça, que chagrin, finalement, ça lui indique qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va s'allumer, à ce moment-là, on le teste avec des phrases entières. Donc, de temps en temps, cette phrase contient chagrin en entier. On s'attend à ce que le bébé tourne la tête. Donc ça a déjà été fait, on sait que ça marche. De temps en temps, on a une phrase qui contient rien du tout qui ressemble à chagrin, par exemple son éléphant. On s'attend à ce qu'il ne tourne pas la tête dans ces conditions. Et les cas qui nous intéressent, évidemment, c'est les mêmes phrases que tout à l'heure. Donc, si on lui parle d'un chagrin cheux, est-ce qu'il va penser que peut-être il y avait chagrin là-dedans? Et s'il tourne la tête, est-ce qu'il va tourner la tête à la même vitesse ou peut-être un peu plus lentement? Et aussi avec le cas où il y a la frontière mélodique. Il reste combien de temps? Il est temps de conclure. Un quart d'heure encore, d'accord. Donc j'ai du temps en fait pour vous parler encore de la suite du problème, qui est comment faire pour deviner le sens des mots. Et là vraiment c'est un problème très très difficile. Alors, il a été très étudié par un chercheur qui s'appelle Laila Gleitman, qui travaille aux États-Unis. Et en fait, elle a eu une idée très, très amusante pour essayer de découvrir comment font les enfants pour trouver le sens des mots et pourquoi c'est facile ou pas difficile. Donc d'abord, il faut que je vous décrive un petit peu la technique expérimentale. Donc comment on fait, comment font les enfants pour trouver que chien veut dire chien? Bon, la réponse la plus évidente, celle qu'on a donnée depuis longtemps, c'est qu'ils regardent autour d'eux. Et puis quand on peut penser que quand il y a des chiens dans l'environnement, on va plus souvent parler de chiens, effectivement. Donc on apprend par l'observation. Et c'est forcé qu'il y ait une part d'observation, évidemment. On ne pourrait pas apprendre le sens des mots en écoutant la radio, simplement, sans aucune information sur les référents. Mais ce qu'elle a étudié, c'était finalement la fiabilité de ce genre d'information. Et donc, pour tester ça, elle a pris encore une fois des étudiants d'université. C'est toujours les mêmes qui travaillent. Et puis, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des petites vidéos de mamans qui parlaient à leurs enfants. Et alors, pour chaque mot que les étudiants devaient deviner, elle leur a présenté 6 petits passages pendant lesquels une maman interagit avec son enfant et prononçait ce mot. Évidemment, les mots, c'était les plus fréquents qu'on trouve dans le vocabulaire des mamans vers les enfants. Donc, il y avait des noms et des verbes comme balle, canard, éléphant, enfin le genre de joujou qu'on utilise. Et pour les verbes, c'était aussi les verbes les plus fréquents. Et ce qu'elle a trouvé dans une première expérience, c'est qu'on a beau présenter 6 exemples différents, donc quand même pas juste un cas, mais un certain nombre de cas, à chaque fois on donne un grand contexte. Pour les noms, les étudiants arrivent plus ou moins, des noms très concrets, encore une fois, comme balle, etc. Donc ils sont à peu près à 45% corrects. Donc ils arrivent quand même à apprendre quelque chose. Par contre, pour les verbes, ils sont à moins de 20% corrects. C'est vraiment totalement dramatique. Ils ne devinent jamais la plupart des verbes. Et alors, c'est quoi les verbes qu'ils ne devinent pas? Les verbes les plus fréquents qu'on adresse aux enfants, c'est des choses comme voir, regarder, penser, le genre de trucs qu'on utilise tout le temps, finalement. Les verbes sont rarement des choses très, très concrètes. Et alors, ils essayent toujours de deviner jouer, mais évidemment, ce n'est pas toujours jouer qui est là. Et alors, ce que Laila Gleitman a imaginé, c'est d'essayer de voir quelle autre source d'information que l'observation les bébés pourraient utiliser pour apprendre le sens des mots. Et donc, elle a utilisé plusieurs conditions que je vous ai décrites ici. Donc, pour les étudiants, le mot mystère est un non-mot du français, un verbe en l'occurrence, par exemple, gorper, qui n'existe pas. Et dans une condition... Donc, je vous ai déjà décrit la condition avec seulement la vidéo, sans rien d'autre. Dans une autre condition, on leur donne les noms qui se trouvent à côté de ce verbe dans la phrase. Dans une autre condition, on leur donne la structure syntaxique des phrases. Donc, comment on fait pour leur donner la structure syntaxique? On leur laisse tous les mots de fonction, comme pourquoi, ne, pas, va, vé, des choses comme ça, au. Et on remplace tous les autres mots, donc évidemment le verbe par gorpé, et tous les autres mots par des non-mots qui sont inventés, donc des faux mots. Et ce que Laila Gleitman a montré, c'est que c'était finalement cette condition qui était la plus efficace pour supporter l'apprentissage. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que finalement, les verbes qui ont... Disons, le sens d'un verbe est en partie encodé dans le type de phrase avec lequel on peut utiliser ce verbe. Donc, par exemple, si on pense à un verbe de communication, bon, en général, on va donner quelque chose à quelqu'un. Il peut y avoir 3 arguments, 3 personnes ou 3 objets qui sont mis en jeu. Au contraire, un verbe de perception, en général, aura typiquement un sujet et la perception. Ou un verbe comme pleuvoir ne peut avoir qu'un sujet. Jamais il ne se produira avec plusieurs. Les verbes mentaux, comme penser, vouloir, vont typiquement pouvoir prendre une proposition entière comme complément. Et donc, ce qu'elle a étudié, c'est l'efficacité de ces différentes sources d'informations. Vous voyez ici les résultats d'une expérience avec les adultes, encore une fois. Donc ici, le résultat, quand ils ont que la vidéo, ça, c'est le pourcentage de mots qu'ils devinent. Vous voyez que c'est moins de 20% correct. Quand on leur donne seulement les noms qui sont là dans la phrase, ça les aide à peu près autant que la vidéo. Donc finalement, ça ne fournit pas tant d'informations que ça, de savoir de quoi on est en train de parler en même temps qu'on présente ce verbe. La structure syntaxique ici est beaucoup plus efficace. Vous voyez qu'on arrive à 35% avec rien que la structure syntaxique, sans même la vidéo. Quand on commence à combiner les informations, par exemple ici la vidéo pour plus la structure syntaxique, on commence à arriver à un pourcentage correct relativement raisonnable. Et donc pour conclure, en fait, ce que j'aimerais souligner un petit peu, j'aimerais conclure sur une note historique, c'est que finalement, au cours du dernier siècle, il y a eu vraiment une véritable révolution dans la manière dont on pense à l'apprentissage en général, pas seulement l'apprentissage du langage. Donc au début du siècle, on pensait que le bébé finalement était comme une enveloppe vide, une tabula rasa, on disait qu'il n'y avait rien qui était là au départ. Tout devait être appris et la manière dont les bébés apprenaient, c'était finalement des procédures d'apprentissage très générales. Par exemple, le conditionnement, comme le chien de Pavlov. Et donc ces procédures reposaient sur l'association. Et donc en fait, on pensait on peut étudier tous les phénomènes d'apprentissage, donc tout l'apprentissage du langage, de toutes les autres choses que les êtres humains apprennent, rien qu'en étudiant des rats dans des boîtes de Skinner, donc des espèces de boîtes qui sont faites pour très bien contrôler les stimuli. Et alors, à partir des années 50, il y a eu le type d'argument que je vous ai présenté tout au début par Noam Chomsky, en particulier au niveau du langage, qui ont montré qu'en fait, ce type de vision du monde ne permettait pas d'avancer du tout, hein, que la manière dont on fonctionne est totalement différente. Et que finalement, l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage du langage ou l'apprentissage d'autres choses, peut être supporté à chaque fois par des procédures qui sont extrêmement spécialisées et qui sont adaptées à chaque problème. Hein. Donc chaque espèce apporte, en arrivant au monde, tout un tas de choses qui lui sont spécifiques, une manière de percevoir le monde, et aussi des procédures d'apprentissage qui lui sont spécifiques. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci.
Nous passons tout de suite aux questions. Alors, on va avoir un problème de micro peut-être. Est-ce qu'on peut remettre derrière de la lumière ? Il y a monsieur ici. Voilà. Allez-y tout de suite. Commencez. Ça, on vous identifie.
Merci. J'ai trouvé cet exposé passionnant, en particulier ce que vous avez dit sur la grammaire universelle. Est-ce qu'il serait possible, en quelques mots, de dire de quoi elle est faite, quel est son contenu, est-ce qu'elle contient des règles, qu'est-ce qu'il y a dans la grammaire universelle ?
Alors, c'est un sujet de recherche qui est très actif. Hein. Je pense que si vous venez à la conférence de demain, vous en saurez plus. Mais bon, il y a plusieurs écoles linguistiques qui s'opposent, toutes sont d'accord sur les faits, mais la formalisation n'est pas nécessairement établie encore. Donc, je peux vous donner un ou deux exemples de choses que les gens essaient d'expliquer. Donc, il y a une des choses, c'est sur l'ordre des mots. On voit que l'ordre des mots, en général, encode quelque chose. Hein. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, si on échange les mots dans une phrase, on obtient un sens totalement différent. Donc dans une langue comme le français, on a toujours le complément qui suit l'objet principal. Donc par exemple, le complément du nom suit le nom, le complément du verbe suit le verbe, la proposition relative suit son antécédent, etc. C'est comme ça à peu près dans la moitié des langues du monde. Dans l'autre moitié des langues du monde, on a l'effet inverse. Donc par exemple, en japonais, en turc ou en bengali, hein, c'est à peu près la moitié des langues, on a une organisation en image miroir. Et il n'y a que ces deux sortes d'organisations à travers les langues du monde. On ne trouve pas des autres manières de fonctionner. Donc il y a toujours comme une espèce de structure abstraite, bon, dans certains cas on peut appeler ça les catégories X-bar, mais encore une fois ça dépend de la théorie qu'on achète. Et donc cette structure abstraite s'applique à tous les niveaux de structure dans la phrase. Donc le principe, ça serait de dire il y a une structure abstraite, et dans ce cas-là, il y a un paramètre qui serait soit les compléments suivent l'objet principal, soit ils précèdent l'objet principal, qui permet de décrire la variation à travers les langues.
Je pense que le mieux, c'est que vous veniez demain, effectivement. Madame.
Oui, ma question est un petit peu annexe et vous n'aurez peut-être pas envie d'y répondre. Forte de ce que vous venez de dire, à savoir que l'enfant tout jeune a un champ de données extrêmement large, qu'est-ce qu'on peut penser de ces expériences parentales qui, dès le plus jeune âge, enfournent des savoirs et font des expériences, on peut dire, c'est à titre expérimental, sur leurs propres enfants pour leur faire apprendre et emmagasiner un maximum de choses. Alors évidemment, ma question est un petit peu à côté
non,
de votre
tout à fait.
Sujet.
Non, c'est très intéressant. Oui. Je pense que c'est utile d'y répondre. En particulier aux États-Unis, ces dernières années, hein, il y a vraiment un mouvement très important qui est de dire, bon, regardez tout ce qui se passe entre 0 et 3 ans. Hein, donc je vous ai montré par exemple, entre 0 et 1 an, on apprend déjà la phonologie de sa langue. Il y a des tas d'autres choses qui se passent entre 0 et 3 ans, le cerveau se forme, et donc ils disent, bon, pendant tout ce temps-là, il faut se dépêcher de leur apprendre le plus de choses possible, parce qu'après, ça sera trop tard. Hein, donc déjà, il y a quelque chose qui est un peu stupide ici, après, c'est pas trop tard du tout, aujourd'hui, vous êtes encore en train d'apprendre, hein, faut quand même pas exagérer. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est que, disons, ce mouvement a pris certains résultats des sciences et les a totalement mal interprétés. Hein, donc c'est assez grave en fait. Il y a toujours un effet médiatique qui peut aller beaucoup plus loin. Donc par exemple, on sait que le développement du cerveau, vous en avez peut-être déjà entendu parler, s'effectue par espèces de vagues. Hein, donc au départ, disons, les neurones communiquent entre eux par l'intermédiaire de synapses, et on a des espèces de vagues pendant lesquelles de nombreuses synapses sont créées, plus ou moins de manière aléatoire, et ensuite sont sélectionnées celles qui servent. Donc grâce à l'environnement, les synapses qui servent vont être sélectionnées, vont rester, et ensuite le résultat sera un cerveau qui sera connecté de la bonne manière pour fonctionner normalement. Donc c'est très important de perdre les synapses, sinon on reste avec un truc aléatoire où il y a du bruit partout. Et donc ces gens aux États-Unis disent « Mais regardez quel gâchis toutes ces synapses qu'on perd, en fait. Si seulement on stimulait suffisamment nos enfants, on pourrait garder toutes ces synapses et donc ça serait bien mieux. » Donc c'est vraiment une incompréhension totale des résultats scientifiques. Et il faut se méfier beaucoup. Donc pour ce qui est du problème de l'environnement, c'est sûr qu'un enfant qui est complètement isolé, qui n'a aucun langage, n'apprendra pas le langage. Donc c'est important qu'il y ait du langage dans l'environnement. Mais ceci dit, toutes les études qui ont essayé de voir, par exemple, est-ce qu'il y a une influence du nombre d'heures de parole qu'un enfant a chaque jour ? Donc on pourrait penser, c'est important de parler beaucoup aux enfants pour qu'ils apprennent mieux. Donc on a pris des cas extrêmes, des enfants qui n'entendaient peut-être qu'une heure de parole par jour, parce que les parents étaient très occupés, et d'autres qui entendaient 12 heures, j'exagère, de parole par jour. Et ce qu'on a trouvé, c'est que quand on les étudie petit à petit, mais ils apprennent le langage exactement au même rythme. Et donc la seule chose qu'on voit, c'est que ceux auxquels on a parlé beaucoup, ils auront peut-être un vocabulaire plus étendu. Tout comme aujourd'hui, si on prend des adultes, ceux qui lisent beaucoup auront peut-être un vocabulaire plus étendu que ceux qui lisent moins. Mais la performance, la grammaire, est exactement la même dans ces deux populations. Donc c'est sûr qu'il faut quelque chose dans l'environnement, mais ce n'est pas forcément en enrichissant l'environnement qu'on va rendre l'apprentissage meilleur. Il faut un minimum. Au-delà du minimum, ce n'est pas garanti que ça aide beaucoup. Et l'autre risque qui est lié donc à ce mouvement très puissant encore aux États-Unis, c'est que déjà, ça donne lieu à des absurdités du genre « Faites donc écouter à votre bébé avant qu'il soit né, faites-lui donc écouter du russe, il apprendra mieux le russe plus tard. Bon, » on n'a aucune évidence que ça marche. Et puis, on risque aussi finalement de surcharger les enfants. Donc après, il faut voir aussi l'aspect émotionnel. Bon, s'il y a des pauvres enfants qu'on fait travailler, entre guillemets, comme ça, alors qu'ils ont entre 2 et 3 ans, 12 heures par jour, bon, ça peut faire trop, tout simplement. Merci pour la question.
Monsieur.
Au sujet des accents, est-ce qu'on a fait des études sur les gens qui sont des imitateurs ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, concernant la différence homme-animal, le conférencier d'hier nous a dit qu'il était étonné entre la différence qu'il y a entre la compréhension et la production. La compréhension, donc, correspondant à l'ère de Wernicke, et la production à l'ère de Broca. Chez l'animal, ces aires-là servent à quoi ?
Vous voulez dire les aires correspondantes aux aires du langage ?
Oui.
Mais il faudrait déjà pouvoir les identifier. Vous voulez dire anatomiquement ? Bon, c'est pas garanti que... Disons, c'est sûr qu'il y a une prédisposition anatomique pour les aires du cerveau, mais par exemple, si vous prenez des gens qui sont aveugles, ils n'utilisent pas l'ensemble des aires visuelles, qui est une partie très importante du cerveau à l'arrière de la tête. Mais par exemple, quand ils apprennent à lire le braille, ils vont utiliser ces zones pour coder la lecture du braille. Donc, c'est difficile de faire une base purement anatomique. Si les animaux n'ont pas de langage, on ne peut pas définir une aire de Wernicke et une aire de Broca.
Et concernant les imitateurs ?
Ah oui, alors sur les imitateurs, autant que je sache, ça n'a pas été étudié véritablement. Mais ce qui semblerait, en fait, c'est que... Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut imiter ? Donc, mettons que moi, je me mette à parler avec un accent italien. C'est ça que vous dites, il y a des gens qui font ça très bien. Et donc, c'est quoi parler avec un accent italien, finalement ? C'est que les Italiens, quand ils parlent français, ils ont tendance à tous faire la même chose au français. Donc, ils ont des problèmes avec certains phonèmes particuliers, pas avec d'autres. Par exemple, le « be » et le « peu » sont assez semblables en italien et en français, donc ce n'est pas des phonèmes qui vont souffrir. D'autres vont souffrir, notamment les voyelles comme le « u » ou les voyelles nasales qui n'existent pas en italien. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, finalement, c'est essayer d'extraire une espèce de règle de ce que font les Italiens quand ils parlent français et imiter cette règle. Mais autant qu'on sache, c'est plus du domaine de la caricature. C'est-à-dire qu'on peut exagérer certains traits, ça ne ressemble pas tout à fait à ce que font les Italiens véritablement quand ils parlent français. Mais c'est les choses qui nous sont les plus audibles, finalement. Bon.
Monsieur.
Simplement, la question est la suivante. C'est qu'il avait semblé que l'intitulé de la conférence était les bases cérébrales du langage. Et cela, de toute façon, et je n'ai pas entendu, si vous voulez, cet aspect de la question, à savoir le cerveau en lui-même n'a pas été exposé. Cela parce que ça m'a fait penser à un des articles récents parus dans la revue La Recherche, et qui faisait mention du cerveau d'Einstein, et que ce cerveau, il avait été étudié en 1955 au moment de sa mort, et puis ensuite on a découvert récemment qu'il comportait une anomalie, notamment au niveau du lobe pariétal, et qui serait le siège de l'intelligence et peut-être même de la verbalisation. Tout ça, ce sont des notions évidemment à mettre en chier. Et aussi sur le fait qu'il est de réputation, il est notoire que Einstein ne s'est mis à parler vraiment qu'à partir de l'âge de 3 ans, au dire de sa sœur. Et que cela est de toute façon notoire. Einstein est réputé n'avoir parlé que très tard. Donc là, il y a une dichotomie entre le fait de parler, n'est-ce pas, de dire des mots, et ce que la personne est, effectivement. Et cela rejoint un autre point que je voulais soulever là, c'est qu'il n'est pas fait mention du tout de l'aspect émotionnel, je voulais, qui sous-tend le langage ou le mot, le verbe, ce qui veut dire. Peut-être que le mot, ce qui sous-entend, doit être étayé par une émotion au départ. Et quand vous dites, quand vous concluez votre exposé sur le point de vue historique en disant qu'au début du siècle, le bébé était tabula rasa, qu'on ne savait rien, je crois que là, c'était faire un peu oublier un peu l'apport, si vous voulez, freudien, où il montrait justement que les bases de la personnalité émergeaient très précocement dans l'individu, ne serait-ce qu'au niveau des sensations qui disaient être sexuelles dans son acception, l'acception qu'il en donnait lui-même. C'est-à-dire que nous sommes formés très très tôt, n'est-ce pas?
Bon.
Ah, il y a beaucoup de choses dans votre question.
Là, n'est-ce pas?
Bon, si vous voulez on vous demande de poser une question, s'il vous plaît. Vous
en non, avez posé bon,
c'était une remarque.
Il y en a déjà 3 ou 4, c'est bon.
Et peut-être que là, on peut rejoindre, justement, au cours d'une cure psychanalytique, toute la difficulté revient à verbaliser les émotions.
Bon, est-ce que vous pouvez dire deux mots sur le cérébral et sur les émotions?
Okay. Bon, donc, il y avait plusieurs choses dans la question, hein. Alors, vous êtes un peu déçu que je ne vous ai pas parlé du cerveau. C'est vrai que j'aurais pu choisir de vous présenter des images de cerveau. Il se trouve que pour le moment, donc déjà, pourquoi, où est-ce que je vous ai parlé du cerveau en fait, hein? Je vous ai dit qu'il y avait une capacité innée pour apprendre à parler. On pense qu'elle se situe quelque part dans le cerveau et pas ailleurs, comme dans les orteils ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la manière abstraite de parler du cerveau. Maintenant, les études sur le cerveau elle-même, on en a fait beaucoup chez les adultes, et ça a commencé de toute façon au siècle dernier avec la neuropsychologie. Hein, donc on a pu observer que des adultes qui avaient eu un problème particulier dans une zone du cerveau perdaient le langage sélectivement. Ces études aujourd'hui donc, nous renseignent de plus en plus finement sur la manière dont les zones du cerveau correspondent à différentes parties du langage. Pour le moment, ça ne permet pas finalement d'apporter tellement plus que ça, donc tellement plus que le genre de choses dont je vous ai parlé ici. Les études sur les bébés commencent à peine. On commence à peine à avoir des études, des techniques qui permettent d'obtenir des images du cerveau chez les bébés et qui ne soient pas invasives, comme on dit. Hein. Donc, par exemple, le PET scan, on revient à injecter de la radioactivité. On ne le fait pas sur des bébés en bonne santé, à moins qu'il y ait une raison de le faire. Voilà, tout simplement. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui émergent et c'est certainement des choses sur lesquelles on va savoir plus. Donc par exemple, le genre de question, hein, on sait que chez l'adulte, chez 90% des adultes droitiers, le langage se trouve dans l'hémisphère gauche du cerveau. On peut se demander, c'est une question qui était posée depuis longtemps, est-ce que c'est comme ça dès la naissance ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se produit au fur et à mesure qu'on apprend le langage? Bon, les autres parties de votre question, la dimension émotionnelle du langage. Alors, c'est sûr qu'il y a une dimension émotionnelle à la communication, hein, ça c'est évident. Mais justement, il semblerait que l'émotion soit déjà là, même avant qu'il y ait du langage. Hein. Donc si vous prenez une mère qui communique avec son bébé, avant qu'il se mette à parler, bon, ben, ils arrivent déjà à communiquer un paquet de trucs. Donc, moi, il me semble que la partie du langage dont je vous ai parlé ici, c'est justement la partie qui est formelle, qui est comme détachée de l'émotion. Hein. Donc, c'est tout l'attirail qui vous permet de calculer le sens d'une phrase à partir du sens de ces mots. Les mots peuvent être extrêmement abstraits, n'avoir aucune connotation émotionnelle. Votre attirail syntaxique fonctionne de la même manière. Maintenant, c'est sûr que dans la communication, il y a un aspect émotionnel que je n'ai pas du tout abordé ici.
Bien, on va prendre une dernière question. Vous vouliez ? C'est tout ? Y a-t-il d'autres ? Non ? J'ai pas vu. Ah, Bon, donc une avant-dernière.
Hein. Bonjour.
Une dernière, là.
Je voudrais apporter des compléments historiques sur votre truc, sur la belle.
Pas de compléments, une question, non, s'il vous plaît.
La question, elle est tirée de ça. Comme la langue des sourds-muets a été interdite à moult reprises, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que les gouvernements étaient plus ou moins gnouneux, est-ce qu'il ne serait pas possible, et puis aussi un truc, c'est que chaque pays a sa langue des signes, c'est dû à la particularité des lettres, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire une langue des signes européenne d'abord? Par exemple, je crois qu'il y a eu une expérimentation pour une langue des signes mondiale, mais ça a capoté parce que je ne sais pas pourquoi.
Ouais, c'est les mêmes difficultés, hein, disons. Pour une personne qui a appris une langue des signes en tant qu'enfant, par exemple parce que ses parents étaient eux-mêmes sourds-muets, bon, ben c'est sa langue maternelle. Apprendre une deuxième langue, ça sera toujours difficile. Donc on pourrait aussi faire une langue mondiale pour le langage parlé, hein, ça serait très pratique qu'on parle tous la même langue. Pour l'espéranto, voilà, pourquoi ça a raté l'espéranto? Parce que c'est une langue qui a été inventée. Pour que l'espéranto marche, il faudrait laisser des enfants inventer l'espéranto. À ce moment-là, ça serait une langue naturelle et on pourrait l'apprendre naturellement. Sinon, c'est comme d'étudier le latin comme une langue morte. Hein, c'est un exercice intellectuel qui est très difficile, qui implique un coût, et les gens ne le feront donc pas. Pourquoi il y a plusieurs langues des signes dans plusieurs pays? C'est pas parce que finalement c'est lié aux lettres, pas du tout. Hein. Je vous ai bien dit, la langue des signes britannique et la langue des signes américaine sont complètement différentes. Parce que la langue des signes américaine, finalement, a dérivé de celle du français, et les Britanniques ont inventé un autre système. Donc c'est, encore une fois, c'est les enfants qui ont inventé leur propre système, et c'est pas du tout lié à la langue parlée du pays correspondant.
Bon. Dernière question, s'il vous plaît.
Oui, alors moi je suis étudiante en préhistoire, et je voulais savoir à quel moment je suis là. À quel moment l'homme a commencé à parler, à communiquer, à verbaliser ou à articuler dans la préhistoire?
Dans la préhistoire, alors justement, on a aucune information, hein, puisqu'il ne reste rien. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut essayer d'étudier la structure du cerveau en regardant les crânes qui nous restent. Et donc, ce qu'on pense, c'est que dès l'instant où Homo sapiens sapiens est apparu, donc l'espèce qu'on est toujours aujourd'hui, mais on pense qu'il avait déjà le langage. Mais évidemment, il n'y a aucune preuve et il n'y aura aucune preuve. Bien, oui, c'est très large, hein, ça fait des dizaines de milliers d'années. Ça, c'est...
Merci.